parti.
Aujourd'hui, c'est avec une vive émotion que je peux enfin parler à l'antenne.
Une femme, c'est pas juste un truc qui sourit et qui a la peau douce. Une femme, ça bouge, ça pense, ça évolue.
Sorcière.
Tu parles comme un homme. Tu bois comme un homme, ça ressemble à quoi, ça, franchement? Pas comme ça que tu as trouvé quelqu'un, je te le dis tout de suite. Hein.
Elle te rend ding 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 quand elle a son poum poum shot. Et ton problème c'est simplement qu'elle s'en moque, elle te rend ding. Boy, quand elle whine dans son shot. Et y'a pas que chez toi qu'elle a causé bien choc, elle est trop belle. S'il est trop maligne pour toi, tcho. Dis-toi qu'une fille comme elle ne se dompte pas, laisse courir à boy, car ça devait finir comme ça. Un fantôme de plus sur son agenda. Quand t'as...
Bonsoir à toutes et tous, chères auditrices et auditeurs de l'autre radio. Il est 19h, à peu près, et vous rentrez dans un espace radiophonique pensé, organisé, chroniqué, bordélisé et techniquement conçu par des femmes. Bienvenue dans l'émission...
Sorcière !
Le studio est allumé, les micros sont branchés et je déclare ouvert pendant une heure un espace de sororité. Comme chaque mois... Avec mes sorcières, on s'empare de notre autre radio et on vous concocte un programme d'enfer. Des chroniques historiques et musicales, un billet d'humeur et une bonne dose d'humour vous attendent dans cette émission. Comme on a notre propre rythme, on est un peu à la bourre sur l'actualité féministe. Et puis il faut être honnête, il y a des jours, eh ben on s'en fout. En plus, il nous arrive de ne pas être toutes d'accord. Mais ce n'est pas une bande de vieux sénateurs blancs qui s'offusquent de l'écriture inclusive qui va nous empêcher de faire avancer le monde ensemble. Et pour ceux qui ont peur que cela mette en péril la clarté de la langue française et que cela compliquerait de façon significative l'accès à la langue française pour les illettrés, les personnes en situation de handicap, les dyslexiques et les dystruques et machin, je sais de quoi je parle, j'ai ma fille qui a des problèmes... Je leur répondrai bien que de toute façon, ce sont en grande majorité les femmes qui s'occupent de l'éducation des enfants, qui accompagnent les illettrés et les personnes en situation de handicap dans leur démarche d'apprentissage de la langue, dans leur démarche administrative, et qu'à mon sens, ces femmes, ce serait bien qu'on leur demande leur avis et ce qu'elles en pensent, et pas qu'un peu. Et de toute façon, les femmes, elles feront bien ce qu'elles veulent, voire ce qu'elles peuvent. Et il n'y aurait pas autre chose à penser que protéger la langue française, l'humanité et le vivant, c'est pas déjà un vaste chantier ? Mais revenons à notre émission du jour. Une émission qui aujourd'hui, précisons-le, se déroule en public, car oui, ne déplaise aux jaloux, régulièrement les sorcières sortent du studio et elles massacrent ou sublime la langue française en public. Sortir de nos studios, on y a pris goût et on adore ça. Petite nouveauté cette fois, nous ne sommes pas dans un bar lavallois, mais dans notre belle campagne du sud Mayenne, au lieu dit de Majdaillé, blottie dans les méandres d'un bois et des chemins de ruyer froid-fond. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, bravo. C'est l'assaut Le Grenier qui nous accueille dans son cocon. Donc, Le Grenier est un espace de partage culturel et artistique, un lieu de rencontre pour se rassembler autrement et explorer de nouvelles formes de partage et de langage. Et ça tombe bien, parce qu'ici, les sorcières n'ont pas la langue dans leur poche. Elles sont libres, enfin elles essayent, libres et sauvages, nature, peinture. Anna, présente autour de cette table, elle a la langue bien pendue, telle une rivière bondissante. Elle nous éclabousse de ses coups de cœur, de ses coups de joue, de joie, de ses coups de gueule. Mais ce soir, je pense qu'on ne l'entendra pas. Je pensais qu'elle était technicienne, mais même pas. Voilà. Dilettante Power avec Margot, qui est plus ou moins à tes côtés autour de cette table. Morgane est née de la mer et du vent. Elle fait sa sirène, elle, sur l'autre radio et elle nous embarque dans ses univers musicaux. Les artistes qu'elle aime, on les a toujours sur les bouts de la langue, mais des fois, on les a pas, donc la spécialiste, c'est bien elle. Morgane, de quel groupe vas-tu nous parler ce soir ?
Je vais vous parler d'Otis Cœur.
On en a déjà parlé dans l'émission précédente,
c'est
mais c'est bien de faire un plus grand arrêt sur image sur elle. Caro danse entre ombre et lumière sous un ciel étoilé. Elle a parfois la langue qui fourche, mais elle a le verbe chevillé au cœur. Et pour vous, ce soir, elle a sculpté ses phrases, parce qu'on était nombreuses, il fallait couper. Caroline, quelle est ton humeur de ce soir ?
Non, je suis joyeuse. Ouais, mais parce que c'est vendredi soir.
Tu sais, on dirait la bague avec la couleur des émotions qu'on avait quand on était gamine.
C'est ça, exactement. C'est un phénix qui renaît de ses cendres, une chamane à la voix chaude qui nous raconte des histoires de femmes oubliées. Mais qui est cette femme sur ce tableau ? Vous donnez votre langue au chat ? Chloé est là pour vous le conter. Alors Chloé, est-ce qu'on garde la surprise ?
Ah oui, on garde la surprise.
On ne dit pas de quelle femme tu nous parles ce soir.
On parle d'une oubliée de l'histoire de l'art. Parce que si je vous demande de me citer un grand peintre, vous allez me parler, je ne sais pas moi, du Caravage, de Rubens, de Michel-Ange, mais les femmes...
En effet. C'est une plume de feu. Merci. Vous saurez tout à l'heure si vous êtes attentif. C'est une plume de feu à l'énergie débordante. Cécile devrait parfois tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler, mais franchement, ça nous gâcherait notre plaisir. Cécile nous balade dans son univers entre franche rigolade, découverte du féminisme et consternation. Son quotidien ressemble au vôtre, mais en plus drôle. Ma chère Cécile, mon petit feu d'artifice, de quoi va-t-on rire ce soir ?
Ce soir, avec vous, cher public, je vais faire mon coming out.
Waouh ! Ton coming out ?
Oui, mon coming out.
De quoi on peut en dire plus ?
Bah non.
Non.
T'es trop pudique.
Ingrid est avec nous aussi ce soir. Il lui est arrivé d'avoir perdu sa langue, mais quand elle retrouve sa voix au chapitre, elle nous régale régulièrement de chroniques et billets d'humeur autour de ses réflexions et engagements. Mais ce soir, tu es là en dilettante, n'est-ce pas Ingrid ?
Bah oui. C'est dommage pour une fois que j'avais préparé ma chronique. C'est vraiment pas sympa, Steph.
Mais il y aura de la place en décembre. Puisque cette émission est en public ce soir et avant toute chose, il me paraît important de donner la parole à Anne, qui nous accueille pour nous présenter ce lieu atypique qu'est le grenier. Anne, est-ce que tu peux nous raconter rapidement ce que c'est que ce lieu, le grenier, Majdaillé ?
Oui, donc bonsoir. Donc le grenier, c'est donc une association qui a été créée par les habitants de Majdaillé. Donc Majdaillé, c'est un corps de ferme en fait qu'on a acheté à plusieurs et qui est un lieu d'habitat collectif. Et donc on a rénové le grenier de la bâtisse principale. Et donc ça fait cet espace sous les combles, cette grande salle.
C'est très chaleureux.
et donc dans ce grenier se passent différentes activités. Des activités régulières. Il y a du yoga, des ateliers clowns, de la danse, des voyages sonores, des activités plus ponctuelles. Enfin voilà, il y a de la méditation, beaucoup de pratiques autour du corps. C'est un petit peu la touche de ce lieu. On accueille aussi des artistes en résidence parfois. Et puis on peut aussi faire des soirées ponctuelles. Et depuis l'an dernier, j'ai proposé d'avoir des temps d'échange autour du féminisme. Donc on a créé ces soirées qu'on a appelées dans le genre féministe.
Dans le genre féministe.
Dans le genre féministe. Et donc une fois par mois, on se retrouvait autour de l'écoute d'un podcast et on en discutait ensuite. Donc vraiment ambiance cosy au grenier, coussin, matelas au sol, tisane. On écoute tranquillement et puis après on discute. On voit ce que ça nous évoque. Ouais. Donc je peux vous donner quelques thèmes qu'on a balayés l'année dernière. Donc on a fait toute une soirée sur le genre. En fait, qu'est-ce que c'est que le genre ? Avec tout le vocabulaire qui est lié, l'identité de genre, l'expression de genre, le sexe, l'orientation sexuelle, les questions de non-binarité, de LGBTQIA+. Donc tous les termes, on les a un peu essayé de les définir et de les comprendre. On a fait aussi une soirée sur l'afroféminisme, dans l'idée que le féminisme c'est une part de la lutte, mais qu'il y a plein d'autres luttes et que c'était intéressant d'être à l'intersection de toutes ces luttes. Donc sur des questions qui peuvent être de racisme, de validisme, donc cette soirée sur l'afroféminisme. On a parlé aussi d'éducation différenciée entre les filles et les garçons. Grand sujet quand on quand on est parents et pas que, voilà. voilà, on a fait aussi une soirée où on s'est demandé si on était contraint à l'hétérosexualité, si on vivait dans un système qui nous, voilà, qui était un système justement hétérosexuel, sans parler forcément de l'orientation sexuelle, mais en fait, voilà, qu'on vivait dans un système très binaire et très, très axé sur l'hétérosexualité. Donc ça, c'était aussi un sujet. Voilà, plein d'autres choses que j'oublie, mais voilà, l'objectif, c'est vraiment de créer un espace de discussion sur ces thématiques dans un cadre bienveillant, respectueux des identités de chacun. Et voilà, donc c'est vraiment des temps très, très, très ouverts, tranquilles, enfin voilà, ouverts à tous.
Est-ce que ce sont des temps mixtes ou non mixtes?
Alors, jusqu'à présent, ça a toujours été en mixte. Voilà.
Mixte.
C'est mixte. La question s'est pas posée. Parfois on était entre femmes, parfois on était en mixité. Voilà.
D'accord. Et s'il y a des auditeuristes qui voudraient venir participer à ces soirées, où est-ce qu'ils pourraient trouver l'info?
Alors, sur le site internet du Grenier. Donc on a un site internet, le Grenier 53. Voilà, il suffit de taper ça, j'ai pas l'adresse exacte, mais voilà, vous allez le trouver.
Je crois que moi j'ai tapé le Grenier Majdaillé, on trouve,
ouais, ouais, c'est ça.
Ruyer Froissant. Voilà.
Et du coup, pour cette année, en fait, c'est la première de l'année, c'est de vous accueillir ici au Grenier. Et cette année, peut-être, c'est l'idée de faire des propositions un peu plus ludiques ou festives. Donc voilà, ce soir, avec vous, les sorcières, suivi d'une soirée jeu. Et aussi l'idée de peut-être délocaliser un petit peu les propositions. Donc on est en lien avec la Loupiote, l'épicerie, bar-restauration à Bousset, pour aller faire un temps d'échange là-bas, probablement en décembre. Donc on vous tiendra au courant de la date.
Ok, très bien, merci beaucoup. On pourra diffuser les dates dans cette émission, évidemment. Merci beaucoup, Anne, pour cette présentation du lieu. C'était très important pour nous. On se sent très bien accueillis. On est dans un joli cocon. Hein. C'est pas un studio, c'est autre chose. C'est très chouette. Merci. Merci à vous, les habitants de Majdaillé. Cécile, je te propose d'ouvrir le bal de la chronique. J'espère, messieurs, dames, que vos zygomatiques sont en forme, car Cécile est la crème de la crème des humoristes de l'autre radio. Il n'y en a qu'une, mais tant pis. Bientôt en stand-up dans votre PMU le plus proche.
Mais quelle introduction. Bon, aujourd'hui, enfin ce soir, je vais faire quelque chose de très particulier. Je vais faire mon coming out avec vous, cher public. J'ai fait l'autotest, pas celui que tu te fourres bien profond dans les naseaux, non. Non, mais celui qu'on gratte à l'intérieur de la joue, là, comme ça. Oui, le test ADN, c'est ça. Vous en avez déjà fait? Non? Oui? Il y en a plusieurs, il y a 23 et demi. MyHeritage DNA, Ancestry DNA. Bon, vous n'en avez pas fait. OK. Bon, ce test qui va t'indiquer que ton ADN, tes origines sont 25% Iber, 55% du Maghreb, 20% des Balkans. Et moi, j'ai fait mon test ADN avec la société BraiseADN.com. Moi qui étais super excitée de me dire que j'avais peut-être un peu de sang italien comme Monica Bellucci ou slovaque comme Adriana Carambeu, je me retrouvais avec 15% d'ADN britannique comme Margaret Thatcher, 17% de viking comme la reine des neiges, 38% de breton, c'est sûr qu'après 10 générations à se reproduire dans le même hameau à Pleumeleuc, ça commence à se ressentir à mon niveau. Mais surtout, 38% de beauf.
Non.
De beauf.
Mais, alors, Cécile, ça fait 90% tout ça, parce que je suis très forte en calcul, j'ai compté. Il te manque donc 2%.
Ouais, 2% ou 2 chromosomes. Moi, je suis plus à ça. Après, je me porte bien, t'inquiète pas. Alors, ce soir, les chiffres ont parlé. Je fais mon coming out. Je suis beauf, donc à 38%. Jusqu'à maintenant, je n'assumais pas. J'aurais dû m'en douter quand même quand ma vie ressemble à un long fleuve tranquille. Dans la famille Groseille, je demande la mère, celle qui crache au sens propre, comme au sens... qui crache au
ça
sens
va
propre.
Venir, ça va venir.
Quoique, c'est
si
plutôt ça.
Perturber.
Sur sa télévision cathodique, car elle n'apprécie pas le présentateur, et la mienne, elle crache aussi, mais au sens figuré.
Cécile, ta mère va t'entendre à la radio. Il faut pas que tu dises des choses désagréables sur ta mère.
Mais non, Steph, rassure-toi, elle m'a déjà écoutée une fois, et avec sa grande délicatesse, elle m'a dit « Non, mais c'est bof, c'est plus que bof ce que tu dis dans tes chroniques, il y a vraiment du monde qui t'écoute. »
C'est vrai qu'elle a dit ça.
C'est vrai qu'elle a dit ça. Donc, peut-être...
C'est pas
c'était
grave.
Bien. Peut-être que les Lequesnois auraient été plus indulgents. On m'a échangé de famille comme Momo à la maternité. Le film Les Tuches ou encore La vie est un long fleuve tranquille sont mes rêves de beauf ultime. Alors j'ai découpé un petit passage pour vous. Ouais. Je restitue la scène. Donc, film de 1988. La famille Groseille joue aux cartes avec l'épicier Ahmed, qui est maghrébin. Autour de la table, Madame Groseille, son mari, les enfants et Roseline, la jeune femme extrêmement maquillée avec des vêtements très colorés, les cheveux blonds, peroxydés, tout crépés. Et en l'espace de 20 secondes, on a un pot pourri. On y trouve tout ce qui définit le beauf.
Roseline, ça doit être pour toi.
Roseline va se faire tirer. Les cartes.
Du moment que c'est pas par les Arabes, hein, Ahmed?
Ah bah ça, c'est agréable.
Estime-toi déjà heureux de jouer à la table de français.
J'ai retrouvé le nom du réalisateur, un certain monsieur Zemmour. Bon, là, c'était mon opinion sur le beauf, et on en a tous une d'ailleurs. Le fait même d'en avoir une en dit beaucoup sur celui qui juge et sur son complexe de supériorité. Bam, dans ma face! Et vous, les filles, avez-vous un nom à citer? Célèbre, connu? Bah, pas dans votre entourage, s'il vous plaît. On va se faire des ennemis, sinon on perdra de l'audience. Alors, avez-vous donc des exemples?
Donc, on ne parle pas de Jean-Pierre, notre voisin, quoi.
Pas de Jean-Pierre, non.
Zut.
Bah, Johnny, quoi.
Johnny, mais vous, le public, Johnny. Vous avez des références de beauf ultime? Allez, on vous écoute.
Bah non, pas Johnny. Pas Johnny. Les gens qui écoutent Johnny.
Oui. Patrick Sébastien, par exemple. Patrick Sébastien, voilà. Hanouna, Trump, Bigard, Afida Turner. Et puis, vous me connaissez, moi j'ai besoin d'aller plus loin dans ma chronique et je ne vais pas m'arrêter à ma simple perception du personnage. Alors j'ai enquêté sur l'origine du beauf. Petit quiz, cher public, vous êtes prêts? À votre avis, le beauf est né petit A en 1936, en même temps que les congés payés, petit B en 1970 avec Cabu, ou petit C, il a toujours existé mais on ne l'avait pas nommé. C'est à gauche. Ah.
Est-ce que tout le monde dit
avec
C? Ah.
Avec les vacances et le camping.
Allez, réponse B et C. Oui, alors oui, en effet. Alors, il a toujours existé et il est né donc en 1970 avec Cabu. J'ai souhaité illustrer ma chronique. Je contextualise. Ma source est issue des archives de télévision INA durant l'émission de Bernard Pivot, nommée Apostrophe. Il s'agissait d'une émission dans laquelle Bernard Pivot invitait des intellectuels, des politiques, des personnalités entre 1975 et 1990. Et il a reçu Mitterrand, Guy Bedos, Hergé l'illustrateur, entre autres. Donc, ici, dans mes extraits, l'émission date de juillet 80 et l'un des invités est Cabu. Outre son travail de caricaturiste, dessinateur de presse dans des journaux satiriques comme Harakiri, Charlie Hebdo ou Le Canard Enchaîné, il a sorti en 1976 un ouvrage, son premier album, Le Beauf. Cet homme bedonnant, moustachu, chauvin, de droite, avec un look pseudo-branché. Suite à cela, sachez qu'en 1988, c'est ça, le terme beauf est entré dans le dictionnaire.
Homme peu cultivé, vulgaire, étroit d'esprit et phallocrate.
Ce serait donc grâce à Cabu qu'on parle du beauf.
C'est bien ça.
Ok.
Exactement. Donc ici, dans l'émission de Bernard Pivot, Cabu disserte sur le beauf à la française. Bernard Pivot se renseigne avec application sur les caractéristiques de cet éminent représentatif d'un certain esprit français.
Bon, d'abord, qui c'est? Qu'est-ce que c'est qu'un beauf?
Ça veut dire beau-frère. Je crois qu'il y en a un dans chaque famille, même s'il est cousin ou oncle. C'est le personnage qui embête tout le monde, qui n'a aucun doute. Alors lui, il a que des convictions et il représente le bon sens français, mais il se rend pas compte qu'il est complètement manipulé, quoi. Le bon sens va toujours dans le sens de l'idéologie du moment, dominante, comme par hasard.
Là, dans l'extrait, franchement, il parle de moi. Hein, c'est tout moi, mais 38%. Hein. Là, je me reconnais vraiment. Sinon, un deuxième extrait.
Comment est-ce qu'on parle dans le café?
Eh ben, il
braille.
Il juge tout. Il braille. Il est partout chez lui, quoi.
À l'aise.
Il est à l'aise.
À l'aise partout, le beauf, c'est le conformisme. C'est encore moi. Dans le reste de l'émission, Cabu cite, pour lui, le beauf, c'est il parle des joueurs de loto, les chasseurs, les militaires. Et donc, il en parle encore ici.
Ça, c'est Cavana qui dit ça. C'est quand même extraordinaire que les animaux, eux, ils ne défilent pas pour regarder passer un défilé de lapins, par exemple, avec des couteaux. Et nous, les hommes, on fait ça. On va défiler le 14 juillet. On a défilé le 14 juillet avec nos armes, avec ce qui va servir à nous détruire.
Sa haine de l'armée est née durant ces deux années passées pendant la guerre d'Algérie. Donc Cabu, caricaturiste de génie, qui rêvait de changer le monde avec ses crayons et ses feutres, il dessinait contre la guerre, contre le capitalisme effréné et le boycott économique, pour l'écologie, contre les extrêmes de toutes parts. Il pensait qu'on pouvait rire de tout, mais les frères Kouachi t'ont assassiné pour te faire taire le 7 janvier 2015. Mais sache que nous, on ne t'oubliera jamais, cher Cabu. Oh là là, pardon! Pardon, pardon, ma chronique.
Moi, j'ai dit que t'étais drôle, mais.
Oh, punaise. Ouais. Ma chronique vire dans un esprit intellectuel. Attends, faut que je redescende, là. Rassurez-vous, les meufs, ça va redescendre maintenant. J'ai trouvé du lourd. Alors, sur Internet, j'ai trouvé un site incroyable. Il est tellement dingue, je vais le présenter. C'est bleublancbeauf.com. Hyper complet. On peut y passer des heures. La beaufrie au quotidien est un exercice simple, mais qui nécessite quelques conseils techniques que vous trouverez ici. Comment devenir beauf et comment reconnaître un beauf? Les meilleurs prénoms de beauf, vous les avez? Kevin à droite, là, ils sont bons à droite.
Jean-Kevin,
Alvin, Brandon, Brian, Jordan, Kevin, Melvin. Il n'y en a pas dans la salle ce soir. Et les filles, Ashley, Brenda, Cindy, Jennifer, Kimberly, Priscilla, Whitney, il n'y en a pas ce soir. Merci. Ouf. Et puis, il y a également les tatouages. Le dragon, le signe chinois, le tribal, la tête de mort. Mais ça, c'est la panoplie. Il y a aussi les meilleures chansons beauf. Vous en connaissez? Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette les sardines de Patrick Sébastien, fruit de la passion de Francky Vincent.
Les serviettes.
Alice, ça glisse, voilà. Bon, mais il y a surtout la boutique en ligne, avec plein d'accessoires de tuning pour ta voiture, des chapeaux bière pong, des casques à bière avec la paille pour boire, le déguisement pénis gonflable géant, la perruque coupe mulet châtain. Ah non, elle est épuisée, il n'en reste plus qu'en blond. Ah oui, pardon. Donc comment draguer aussi les femmes comme un beauf?
Oui, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'être un beauf, c'est être un mec, vaguement, non?
Mais non.
Pardon.
Alors là, s'il y a des mecs dans la salle, prenez des notes. Vous êtes prêts? J'ai quelques techniques pour vous. Alors, si t'étais un sandwich à McDo, tu serais le magnifique. Oh. On m'a toujours dit de suivre mes rêves, alors ce soir je te suis. Jeffrey Dahmer est un poète. Ton père travaille-t-il chez Nintendo, si j'en crois à ton corps de déesse? Ton père est un voleur, il a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux.
Oh.
Voilà. En fait, Chloé, elle n'est pas beauf, mais c'est sa phrase. Voilà.
C'est un collègue de boulot qui m'avait sorti. C'est son 5%.
Il y a tellement de soleil dans tes yeux que je bronze quand tu me regardes. Et bon, celle-ci, les enfants, bouchez les oreilles. L'amour, c'est regarder ensemble dans la même direction, comme une bonne levrette. Voilà. Mais même quand il ne drague pas, le beauf a des expressions pour sa vie au quotidien. Vous en voulez encore?
Oui.
Allez, en voici un petit florilège. Vous êtes prêts? Qui se couche avec le cul qui gratte le lèvre avec le doigt qui pue? Baisse ta culotte, c'est moi qui pilote. J'ai le cigare au bout des lèvres, tu as le cul bord des nouilles, Robert. Pas plus haut que le verre, Marcel. Belle descente, je n'aimerais pas la remonter à vélo. Je vais mettre la viande dans le torchon. Forte de toutes mes recherches et de ma grande expérience personnelle, je ne pouvais pas terminer cette chronique sans mes précieux conseils. Vous les attendiez?
Oui, c'est sûr.
Merci, cher public, il est timide. Alors, dans vos relations, essayez de fréquenter plus beauf que vous. Ils vous prendront pour un intellectuel. Dans les conversations, il est capital d'avoir toujours un avis sur tout, mais surtout dans les domaines que tu ne maîtrises pas. Moi, par exemple, sur le CAC 40, ChatGPT ou encore comment exciter ton mec après 15 ans ensemble. En revanche, ne citez jamais vos sources sauf si elles viennent du JT de TF1. On est tous le beauf de quelqu'un. Pour conclure, je voulais tout de même saluer l'ouverture d'esprit de l'autre radio. J'ai un pourcentage élevé de beauf dans mon ADN, donc j'ai de l'humour de droite, car j'aime faire tourner les serviettes avec Patrick Sébastien et faire la queue le comme les tuches. Alors merci les sorcières de l'autre radio de me laisser une place. Même si c'est qu'une question de quota, je m'en fous. Bravo l'inclusion. Bravo l'inclusion, je vous aime.
Bravo. Cécile, je crois que tu as des conseils lecture pour nous.
Mais oui, tout à fait.
Ça m'inquiète un peu. Hein.
Après le premier album, l'intégrale beauf dans les années 70, qui décrivait donc un beauf râleur, raciste, grossier, réactionnaire, Cabu en a sorti un deuxième dans les années 90. Son beauf a évolué. Un beauf d'un autre genre qui déteste son prédécesseur. Affublé d'un catogan et d'une barbe de 3 jours, il se veut branché, fume le cigare, travaille dans la pub et rivé sur son téléphone portable, mais il sait mieux que quiconque capter l'air du temps. Si le monde en est là, c'est bien grâce à lui. Il aime le luxe et boit du champagne light. Il se revendique écolo tout en conduisant un 4x4. C'est lui le nouveau beauf, un personnage à hurler de rire comme Cabu les aimait. Vous retrouverez les deux albums, l'intégrale beauf aux auditions Michel Lafon. Noël approche pour gâter vos proches et faire passer des messages.
Bravo. Bravo Cécile. Et moi j'avais autre chose pour faire passer un message, c'était un peu de musique.
On se croise de moins en moins dans les lieux connus, on se cloître de plus en plus dans les lieux communs. J'aime pas les gens, ils me le rendent bien, c'est sûr. J'aime pas qu'ils me défigurent, j'aime pas qu'ils me défigurent, j'aime pas qu'ils envisagent de se glisser en coulure derrière mon maquillage, entre moi et l'armure. J'ai pas le temps et ils n'entendent rien, c'est sûr. Les gens comprennent, les gens bons pour de la nourriture. Regardez comme ils se mettent là, en joli enfilade, pour un petit chat, pour une paire de nattes, pour une petite accolade. Se méfier à outrance ou se fier aux apparences. J'pourrais faire un carnage, j'aime pas ton dévisage.
J'aime pas ton dévisage, replonge ta face dans ton iPhone. C'est fou comme on se sent bien, avec nos compteurs à copains. Avec nos compteurs à copains, avec nos compteurs à potins, j'suis déjà loin.
Won't you let the crop and hit the road, my friend? Won't you let the crop and hit the road, my friend? Won't you look down, won't you look down? Won't you let the crop and hit the road?
Sous mon écorce, ce qui s'étale en littérature. Sachez que moi quand je balance mon porc, c'est dans un vide ordure.
Les gens se soulagent dans de petites aventures. Des lits mineurs anodins, des saccages sans lendemain. J'aime pas les gens, on ne fait pas bon ménage. J'aime pas qu'ils me dévisagent, j'aime pas qu'ils me dévisagent.
J'aime pas qu'ils se figurent des promesses, des procédures. Au-dessus des toits, au-dessus des lois, aux toucheurs intouchables. J'ai pas le temps et ils n'entendent rien, c'est sûr. Les gens sont toujours ouverts derrière leur fermeture.
Won't you put the crop and hit the road, my friend? Won't you put the crop and hit the road, my friend? Won't you look down, won't you look down? Won't you put the crop and get the fuck out?
C'était Chaka Ponk, leur dernier album avec la chanson J'aime pas les gens. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Caro ? Ça va avec les gens ?
Non, moi, j'aime pas les gens, tu sais bien.
Bah oui, comme on est en public, je me suis dit que c'était parfait.
T'as, en plus, personne nous écoute, ils sont tous en train de discuter, c'est la pause.
Mais c'est très bien. En tout cas, Caro, je compte sur toi pour sublimer la langue française et mettre de la poésie avec ton écriture inclusive.
Je ne sais pas si je vais sublimer la langue française. Mais en tout cas, je vais avoir du mal à faire aussi bien que Cécile... Mais par contre, on parle de la même chose à peu près, quoi.
C'est vrai ?
Donc, je démarre.
Incroyable.
Oui, tout à fait. Voilà. Je démarre donc. Auditeurice de tous bords et de tous horizons, amoureux des voyages et des rencontres, des différences et de l'ailleurs, du métissage, c'est à vous que s'adresse ce billet.
Grand bien vous fasse.
Grand bien vous fasse, c'est le mode d'emploi de la vie quotidienne. Ce qu'on appelle un transfuge de classe, c'est-à-dire quelqu'un qui sort d'une classe pour entrer dans une classe supérieure. Toutes et tous ont quitté leur milieu social pour un milieu supérieur.
Pouvoir dire je suis transclasse, c'est sortir du bois.
Parler, c'est mettre fin à la honte. C'est aussi une volonté de mettre fin à la honte sociale et donc au mépris.
Faisons court, faisons efficace. Vous l'aurez compris, ce soir, on va parler transfuge de classe. Et ce, en 6 minutes, ce n'est pas un exercice facile. Oui, moi aussi, je veux sortir du bois et de la honte, voire du mépris. J'ai donc décidé de parler, enfin, voire de faire mon coming out.
J'ai fait un peu une critique des médias sans vouloir faire le journaliste qui critique ses confrères et consoeurs, mais il y a
pas de mal.
Souvent ce tic de revenir aux grands-parents. Dès qu'on a un grand-parent paysan ou ouvrier quelque part, on va mettre le paquet, expliquer que cette personne s'est faite toute seule.
Oui, j'avoue, j'ai une grand-mère à particules, un grand-père général 4 étoiles et je suis régulièrement invitée à des cousinades dans lesquelles l'arbre généalogique est aussi long que large et où on entend encore le mot « mésalliance ».
C'est les gens qui ne viennent pas de Paris seraient tous des transfuges de classe. C'est-à-dire que dès que quelqu'un est né à Bordeaux, même si ses parents sont architectes, alors là...
Et côté maternel, ce n'est pas mieux puisque mon grand-père est le dernier d'une lignée de plusieurs générations d'architectes parisiens. Oui, j'avoue, moi aussi, je suis transfuge de classe et j'ai commencé très tôt ce déplacement vers une autre classe. Après avoir été bonne à marier, j'ai coupé mon chignon, rangé mon collier de perles, j'ai claqué la porte du lycée Select parisien où j'avais été admise en hypocagne. Et j'ai quitté Paris. J'ai quitté les modèles familiaux coincés entre les grenouilles de Bénissier et les bourgeoises lascives et entretenues, gantées et serties. Les modèles coincés entre l'image de la sainte et celle de la salope. J'ai fréquenté les bars, fumé dans la rue, fait percer mes oreilles, parlé fort, bu autant qu'un homme, rongé mes ongles, porté des baskets, des jogging, des bretelles, des salopettes, des vêtements froissés, les cheveux courts, aimé les femmes, aimé les hommes. Liste non exhaustive de toutes ces choses mal vues, voire interdites par mon milieu d'origine, dont j'ai attendu pour certaines jusqu'à l'an dernier pour les réaliser. J'ai fait plein de petits boulots, bossé sur les marchés dès 6 heures et dès 15 ans, essayé de syndiquer tous les vendeurs d'un magasin de fringues des Champs-Élysées. J'ai appris à démonter et remonter mon ordinateur, mon téléphone, mon lave-linge, changer seul mon pneu sous la pluie, même en pleurant, à rénover des murs en pierre apparente, changer mon robinet, mon évier, ma vie d'ange. Bref, j'ai tout fait pour transformer une certaine forme de déterminisme social par le « faire » et non plus par l'être, même si je sais combien certains détails continuent de me trahir. Est-ce mon nez, mon langage, ma voix un peu pincée, mon auriculaire constamment levé ? Le diable se loge dans les détails et le vieux monde me colle à la peau. Être transfuge de classe, ce n'est pas simple, mais de toute façon, je n'aime pas le pain blanc. Bon, ça c'était pour parler de moi, je ferme la parenthèse. Car voyez-vous, j'ai cherché en préparant ce billet des références théoriques pour venir un peu étayer mes propos. Je vous ai préparé un petit pot-pourri.
Il y a des stabilités, bon, alors j'ai essayé d'établir ces inerties, ces constantes, enfin, de les expliquer, c'est-à-dire de comprendre pourquoi c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça ? Alors, on arrive à l'inégalité. Bon, alors, parmi les facteurs de stabilité, de permanence, bon, il y a évidemment la transmission du capital. Bon, le papa riche peut donner de l'argent à son fils et du coup, bah, il va se reproduire. Il tombera pas, il ne deviendra pas ouvrier. Bon. Voilà. Et, alors, par exemple, la différence de réussite entre les filles et les garçons au niveau élémentaire, parce qu'elles ont plus de docilité. Alors, ça peut dire que c'est dans la nature des filles, c'est pas... Elles sont dressées de manière à être dociles.
Je ne sais pas pour vous, mais à mes yeux, ce qui ressort de cet extrait est assez édifiant. Et il me semble que ce n'est pas contre son milieu d'origine qu'il faut se battre pour sortir de sa condition, mais plutôt contre le peu de place qui est laissée aux femmes dans un vieux monde qui imprègne encore absolument toutes les couches de la société. Dans ce vieux monde où la transmission du capital financier, culturel et symbolique est encore majoritairement attribuée aux hommes, ce monde qui reproduit le pouvoir masculin, qui légitime la reproduction de ce pouvoir. Il m'a sauté aux yeux que l'ensemble de mes petites révolutions étaient aussi tributaires de cette vision et que dans tout ce qui fait ma fierté de transformation, il y a sûrement eu beaucoup de défis liés au fait de réussir à faire comme les garçons. Beaucoup à prouver, aux autres en tout cas, et parfois sans succès, beaucoup d'énergie à se dresser contre le dressage.
Figure un peu mythique, ou le terme de self-made man, qui sont les deux versions héroïsantes d'écrire le self-made man, celui qui s'est fait à la force du poignet.
Et que quelque part, excusez-moi pour l'image, je m'étais moi aussi indocile. Faite à la force du poignet. Malgré cette expression viriliste et sexuée, chères auditrices, chères féministes, chères sorcières, il me vient quand même une réflexion délicate et vraie. Si j'ai réussi mon transfuge, littéralement ma fuite de là d'où je viens, c'est bien grâce à vous, mesdames, grâce à toutes les femmes qui ont jalonné ma vie professionnelle et personnelle et qui m'assurent ce respect et ce soutien mutuel. Des femmes qui n'ont pas essayé de me faire rentrer dans une case, de toute façon, trop étroite. Et s'il est bien un endroit où peut exister la mixité sociale, c'est dans des espaces de non-mixité ou de mixité choisie où s'exerce la sororité. Alors, femmes de tous horizons, n'hésitez plus, quittez l'inertie du vieux monde et changez la donne de la reproduction sociale. Oui, la révolution sera féministe. Quant à moi, je vous remercie toutes de m'accueillir dans ce cocon où je peux enfin être moi-même, une punk chic.
Un sport de combat. C'est un sport de combat, ça sert sur...
La sociologie, c'est un sport de combat.
Oui, c'est un sport de combat qui, comme les sports de combat, on s'en sert pour se défendre.
Une punk chic avec un collier de perles.
Bravo.
Bravo, Caro. Je suis très émue de ta propre présentation. Et je savais que ça allait parfaitement résonner avec l'humour de Cécile. Oui, bien, elle dit quand même pas que j'ai de l'humour, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave.
Et si on envoyait un petit jingle pour digérer ?
Oh, c'était beau, c'était bien écrit, c'était beau.
Ouais, c'était trop bien.
Oh, c'est beau, quelle plume. Bah, quand tu mets du...
Dis-moi, Céline, les années ont passé. Pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier ?
Ah non, mais ça va là ou quoi ?
Elle fait ce qu'elle veut la meuf, on laisse la vivre. Hein.
Donc maintenant qu'on a parlé du transfuge low class et de la beaufitude en 30 minutes, hein, en l'espace de 30 minutes, on va passer aux chroniques de Chloé qui sont toujours un moment très attendu, au moins par mois dans cette émission, car elle nous aussi, emmène en voyage. J'ai dit au moins, vous avec aussi si vous voulez. Chloé, c'est à toi.
C'est l'instant Stéphane Bern, c'est ça ?
Oui. J'adore.
Stéphanie Bern.
C'est l'instant Stéphanie Bern, tu peux y aller.
Aujourd'hui, je vous parle d'une femme forte, incroyablement libre, qui a su dépasser sa condition pour vivre de son art. Scandale et illettrisme ne l'ont pas empêchée de devenir une artiste de génie reconnue puis oubliée pendant des siècles. On la considère aujourd'hui comme la femme peintre la plus marquante du baroque italien. Comme ses peintures, sa vie est à la fois audacieuse et violente, mais aussi résolument féministe. Ce qui en fait d'elle une icône des militantes d'aujourd'hui et d'hier. Son histoire est un véritable MeToo chez Médicis. Aujourd'hui, je vous parle d'Artemisia Gentileschi.
Il mio nome, non pronunciarlo più, per favore.
Je vous emmène dans la très catholique Rome du début du XVIIe. C'est une ville de clair-obscur, de contraste. À la fois capitale culturelle, ville de soleil et d'utopie, elle est aussi mal famée dans ses faubourgs gorgés d'artistes, les bandes rivales s'entretuent. Voici pour le décor. L'époque est au baroque et parmi les 200 artistes qui peuplent la cité, notre artiste fait figure d'exception. Alors, qui est Artemisia Gentileschi ? Elle est née en 1593. Son père, Orazio, est peintre à la cour des Médicis et disciple du scandaleux Caravage. Artemisia grandit dans l'atelier de son père et elle vit comme on l'exige des femmes du XVIIe, c'est-à-dire qu'elle mène une vie recluse, rarement autorisée à mettre le pied dehors, si ce n'est pour se rendre à l'église. Elle n'a donc pas accès à l'éducation et c'est bien plus tard qu'elle apprendra à lire et à écrire. À la place, elle est garzoni. C'est-à-dire qu'elle prépare, elle est apprentie, elle prépare les couleurs, elle fait chauffer les huiles, elle prépare les toiles. Et dans cette effervescence créatrice, elle commence à se saisir du crayon et du pinceau. Et elle est douée, et c'est peu dire, puisque du haut de ses 15 ans, elle corrige les toiles de son père. Et à 17 ans seulement, elle réalise son premier chef-d'œuvre, Suzanne et les vieillards. Alors, petit aparté sur son style, on est sur un style... propre au caravagisme, un style nouveau qui plaît beaucoup à l'époque, une peinture nouvelle très réaliste. Les scènes sont souvent violentes, d'une intensité accentuée par un clair-obscur qui en fait sa signature. À 19 ans, elle épouse un peintre, Pier Antonio Schiattezzi, puis part s'installer à Florence où elle va conquérir sa liberté d'artiste. Son plan, utiliser son art pour se placer au rang de ses homologues masculins. À 23 ans, elle sera la première femme à être acceptée à l'Académie des Beaux-Arts. Et quelques années plus tard, elle congédiera son mari pour vivre seule avec sa fille de manière indépendante. À 45 ans, elle se rendra même à Londres pour travailler auprès du roi Charles Ier. Elle a accompli l'impossible dans cette Italie du XVIIe, être devenue une femme peintre reconnue et prospère.
Et Chloé, est-ce qu'elle est la seule femme peintre de son époque, puisqu'on en connaît très peu des femmes peintres ?
Alors effectivement, c'est un choix de carrière insolite, mais pas isolé. Plusieurs femmes ont vécu de leur art et ce, dès la Renaissance. D'ailleurs, sa contemporaine Lavina Fontana a été élue peintre à la cour du pape Clément VIII. Bon, certes, c'est la seule. Mais la plupart restaient prudentes, travaillaient de manière anonyme. Et aujourd'hui encore, c'est très compliqué d'authentifier une œuvre d'une époque où les femmes ne pouvaient rien signer en leur nom. D'ailleurs, cette fameuse Lavina Fontana, vous vous rappelez, cette femme qui travaillait pour le pape, eh bien, à ses débuts, elle co-signait avec son mari pour éviter tout scandale.
Et est-ce que le fait d'être une femme change quelque chose à la peinture ? Est-ce que c'est plus subtil, c'est plus poétique, plus fleuri,
fleuri, chez Artemisia, je ne sais pas. En tout cas, clairement, elle a un style féminin et subversif. Vous allez voir, son travail raconte la violence masculine et surtout la force des femmes. Et pour ça, elle va choisir des sujets féminins. Et ça, c'est fort, puisqu'en faisant ça, elle va inverser la hiérarchie des genres. Elle place les femmes au centre de ses toiles et en fait de véritables actrices capables d'influer sur le cours des choses. Et qui sont ces sujets ? Eh bien, des femmes qui luttent pour leur indépendance, telles que Marie-Madeleine, Cléopâtre, Sainte-Cécile. Et coup de maître, pour représenter ses héroïnes, elle utilise ses propres traits, y compris pour les nus.
Tu peux nous montrer une de ses œuvres, hein, nous les décrire ?
Alors, voici une de ses œuvres. Alors, la suivante, c'est pas celle-ci. Voilà, stop. Hop, juste avant. Voilà, stop. Judith et Holoferne. Donc, pour les auditeurs, je vous invite à regarder sur Internet ou
donc
sur le
Judith
site.
Et Holoferne.
Voilà. Sur le site de l'autre radio, je mettrai le tableau. Judith et Holoferne, un thème très à la mode qui représente en fait l'acte héroïque de Judith, une jeune veuve juive. Bon, pour vous la faire courte, Judith vit dans une ville qui est assiégée par un vrai méchant, Holoferne, général assyrien. Et Judith, pour sauver sa ville, va se rendre au camp d'Holoferne avec sa servante. Elle va le charmer et elle est invitée à dîner. Et elle est maligne, elle rapporte un plat archi salé. Et que fait Holoferne ? Eh bien, il picole. Il picole. Et du coup, paf, il s'endort, ivre dans le sommeil de l'ivresse. Et là, Judith le décapite et quitte le camp, avec dans son panier la tête du tyran qu'elle exposera aux murailles de sa ville pour libérer ainsi sa ville du siège.
C'est une superwoman.
C'est une Wonder Woman. Alors, la représentation de Judith et Holoferne est très codifiée dans l'histoire de l'art. On représente généralement l'instant où elle s'enfuit avec la petite tête dans le panier ou posée délicatement sur un plateau. Mais là, si vous regardez la scène, Artemisia, elle fait un choix complètement subversif, complètement assumé. Elle nous montre quoi ? Eh bien, l'acte en lui-même, le crime. Et ce, d'une manière, mais regardez, hein, c'est résolument violent. Où les femmes sont actrices. Elles sont debout dans l'obscurité, les manches sont retroussées, elles œuvrent à leur besogne presque en silence, de manière absolument calme. La servante s'appuie de tout son corps sur Holoferne pour le maintenir, tandis que Judith l'égorge avec un immense poignard. A contrario de ce calme, une tension physique s'opère, se noue au centre de la scène. Regardez, tous les membres, hein, les bras, les jambes, se convergent vers un point central, cette tête hurlante, hein, qui nous supplie presque. On notera que là encore une fois, Artemisia inverse les codes. Cette fois, la figure vulnérable, dénudée, c'est pas la femme, c'est l'homme qui se trouve. Et c'est la femme qui, elle, est habillée. Alors, c'est un fait notable puisqu'environ 80% des nus dans l'histoire de l'art sont féminins. On retrouve encore cette signature du caravagisme, ce clair-obscur. Regardez, on a l'impression qu'un projecteur vient éclairer la scène par la gauche. Ça permet quoi ? Ça permet de structurer l'œuvre et ça permet d'intensifier les émotions, surtout dans des sujets aussi violents. Enfin, autre trait caractéristique du style, le réalisme. Regardez les visages, quasi photographiques. Les expressions sont justes. Les femmes ont un visage absolument fermé, résolu. Et regardez Judith, elle a un sourire de satisfaction. La peintre pousse le réalisme jusqu'à représenter du sang. Vous avez vu Tarantino, hein. Là on est exactement dans la même thématique. Ça gicle de partout, les draps blancs sont tachés. Et regardez Judith, elle s'éloigne pour pas salir sa robe.
Classe, mais pourquoi autant de violence dans cette œuvre ?
Alors, en fait, il y a un fait, un épisode de sa vie dont je ne vous ai pas encore parlé, et ce, volontairement, pour ne pas résoudre tout son travail à ce simple événement, à ce simple roman de sa vie. Bon, vous vous rappelez qu'Artemisia a appris le métier dans l'atelier de son père ? Eh bien, en fait, pas tout à fait. Orazio, son père, a remarqué très vite son talent et a décidé de parfaire son éducation artistique. Puisqu'il n'y a pas d'école artistique à l'époque, ils l'ont envoyé dans un atelier d'un peintre. Et là, il a eu le nez fin, Orazio, puisqu'il l'a envoyé chez Agostino Tassi. Donc, Artemisia a 17 ans. Et en guise de formation, il la violera. Et pire encore, il refusera de l'épouser par la suite. Oui, parce qu'à l'époque, si tu violes une fille, mais qu'après tu l'épouses, ça passe. Donc, Orazio porte plainte et crie à l'assassinat. Alors, gentil papa, hein. Mais en fait, non, il crie, il ne défend pas sa fille, mais son propre nom, puisque dans la mentalité de la contre-réforme, le viol lui-même est moins grave que le déshonneur qui vient frapper de mort sociale les porteurs du nom. Le procès dure 7 mois, Artemisia est humiliée et on lui fait subir différents examens, dont l'examen des poussettes. Alors, un joli petit nom mignon, hein, les poussettes, qui désigne en fait un objet utilisé par l'Inquisition, un objet de torture pour vérifier la véracité des allégations. Donc en gros, c'est un petit objet dans lequel on insère les doigts et puis des lames de métal viennent broyer les doigts. Alors c'est très sympa pour Artemisia, pour qui, je vous rappelle, les mains sont son outil de travail. Eh bien, elle ne cède pas, elle confirme ses allégations. Tassi est condamné à l'exil, mais soutenu par de puissants protecteurs, il échappera à sa peine. Donc voilà pour le joli trauma. Maintenant, si on revient sur notre scène, notre tableau Judith et Holoferne, eh bien, vous la ressentez autrement, hein, cette colère splendide, hein, cette rage-là qui anime Judith. C'est la même qui anime Artemisia. D'autant plus qu'on se rappelle que pour les tableaux, elle utilise ses propres traits, hein, des autoportraits. Et pour le visage d'Holoferne, à votre avis, qui a-t-elle représenté ? Eh bien, Tassi.
Son violeur,
effectivement. Ouais. Donc en fait, par la peinture, elle s'est rendue justice elle-même. Donc voilà donc l'histoire. C'est une thérapie. Mais en fait, c'est aussi une façon d'affirmer auprès du public ce qui s'est passé. Puisque les œuvres sont vues, les œuvres circulent. Donc même si la justice n'a pas été rendue, elle...
Les gens savent qui c'est.
Mmh. Et en fait, elle leur fait un gros fuck en disant que je ne suis pas victime, en fait.
C'est une finesse féminine.
Exactement.
Tout à fait.
Donc voilà l'histoire d'Artemisia Gentileschi. Donc une femme à la personnalité incroyable, dotée d'un génie tout aussi incroyable, et pourtant oubliée après sa mort. La raison, eh bien, ça s'appelle l'invisibilisation. Le fait de faire disparaître une femme de l'histoire. Et ses tableaux ont longtemps été oubliés et attribués à d'autres artistes masculins comme son père ou même le grand Caravage. Donc là, on voit la même représentation de Judith et Holoferne du Caravage, où regardez, la figure de Judith n'est pas du tout la même que chez Artemisia.
Non, on dirait ça la dégoûte un peu d'égorger un homme. C'est pas le cas dans l'autre tableau.
Regardez, c'est même la servante qui la susurre à l'oreille. Regardez, c'est même la servante qui l'encourage. Toute l'œuvre d'Artemisia a été redécouverte en 1916, c'est très tard, par un historien de l'art. Et pourquoi on l'a redécouvert au début du XXe ? Non pas par la qualité de son travail, mais simplement par le roman de sa vie, par ce scandale dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et il faudra attendre les années 1970 pour qu'elle soit remise au devant de la scène pour la qualité de son travail et par des historiens de l'art féministe comme Linda Nochlin.
Merci beaucoup Chloé, merci beaucoup pour cette présentation de femme artiste, pour cette présentation de tableau. Ce qui veut dire aussi, dans ce que j'entends dans cette histoire, que si elle n'avait pas vécu un viol et qu'il n'y avait pas eu une histoire tout autour de ça, on n'aurait peut-être pas redécouvert ces tableaux.
En tout cas, pas aussitôt et pas sous ce format-là. Aujourd'hui, on reconnaît sa qualité, elle a surpassé sur de nombreux points le talent de son père. Mais oui, effectivement.
Tu nous mettras des petites références sous
le tableau, effectivement.
Et le son ne part pas, mais ça va pas tarder.
Il mio nome, non pronunciarlo più, per favore. Il tuo nome, l'ho cancellato già dal mio cuore. Tu sei libero, Eva, ma ricordati che come me un dì tu soffrirai così. Eva, ma il mio nome sulle tue labbra ancora tornerà e il tuo cuore sicuramente mi cercherà. Tue labbra ancora tornerà e il tuo cuore sicuramente mi cercherà.
Elle est pas fraîche la bière.
C'est pas grave Steph, nous on l'est.
Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil.
Sorcière.
Sorcière.
Bienvenue sur Sorcière.
C'est bon pour le moral. Merci beaucoup Chloé pour cette belle chronique très instructive. Merci de nous éclairer sur ces femmes qui font l'histoire, mais par contre ça n'en rendra pas Dalida. Morgane, est-ce qu'un jour tu nous feras une chronique sur Dalida, non ? Pas assez.
Oui.
Non. Je pense que c'est Chloé qui la fera, on lui laisse pas l'honneur.
Ouais. Non.
Morgane, à toi, je t'en prie.
Alors ce soir, j'ai choisi de vous parler d'un groupe que j'ai découvert au 6x4 le 18 octobre dernier lors d'une soirée centrée sur la représentation de la femme dans les musiques actuelles. Nous avons assisté à un concert explosif. Et depuis ce jour, j'ai leurs chansons dans la tête.
Grave.
Otis Kerr, mais oui. Hein. Otis Kerr, c'est un duo de filles qui chantent et jouent fort. Margot, la blonde survoltée, et Camille, la brune mystérieuse. Elles forment le renouveau de la pop indie rock depuis 3 ans. Elles savent manier leurs instruments, guitare, basse. Elles se sont rencontrées fin 2019 à une formation de musique à Paris et ont décidé de concrétiser la formation de leur groupe pendant le confinement en 2020. Elles ont investi un garage familial en Loire-Atlantique et travaillent ensemble de l'écriture à l'enregistrement. Alors, pourquoi Otis Kerr ? Alors Otis est un prénom dans lequel elles ont regroupé toutes leurs histoires. Leur rencontre toxique, c'est en quelque sorte la sacralisation de tous leurs ex. Et cœur, c'est l'amour, un thème important dans leurs chansons. Donc Otis cœur, c'est l'opposition entre tout ça. La sororité est au centre de leur projet. Leur leitmotiv est de s'entraider, s'écouter et se tirer vers le haut. Elles ont décidé de s'entourer d'une équipe majoritairement féminine. Ingé son, ingé lumière, bookeuse, manageuse, batteuse et attachée de presse. Elles revendiquent le pop féminisme, un féminisme très accessible et pas moralisateur.
La batteuse de Jeanne Adède. Hein.
J'allais le dire.
Ah, pardon.
Tu divulgâches là. Alors, elles n'ont pas connu la phase des cafés-concerts comme certains groupes pour se faire connaître. Elles ont leur premier concert dès novembre 2020. Puis 2021, c'est leur année. Elles sont sélectionnées pour les Inouïs du Printemps de Bourges en 2021. Elles ont pu prouver leur légitimité. Et tout s'est accéléré. Sortie du premier single le 13 avril, « Je marche derrière toi ». Elles sortent leur premier EP juste derrière toi avec 5 titres et sont invitées au festival Les Femmes S'en Mêlent et au Transmusical. Et oui, et elles font même une première partie à l'Olympia. Ouais, ouais, des bébés chanteuses et elles font tout ça. Peu de temps après, le deuxième EP, Léon, sort en août 2022. On écoute le premier single, Léon.
Tu signes le peu de ton nom, volant le trône sans poser de questions.
Le premier EP symbolise la rage, la colère. Elles écrivent sur leur rupture, leur mauvaise rencontre. Dans le deuxième, elles sont encore un peu amères, mais apaisées. Elles s'émancipent, elles s'expriment de plus en plus sur des sujets sociétaux. Les inégalités hommes-femmes, le patriarcat, la sexualité féminine. Comme elles disent, il y aura toujours des cons pour inspirer leurs chansons. Voici « Je ne viens, jamais je ne viens ».
T'as même pas essayé de trouver mon point.
Amélie Leroux, voilà, j'étais spoilée, mais Amélie Leroux, batteuse avec laquelle elles ont commencé, a rejoint l'équipe de nouveau et les aide à arranger les morceaux. On a pu la voir l'été dernier sur scène avec Jeanne Adède. Effectivement. Et elle envoie. Leur voix s'harmonise parfaitement. Les mélodies sonnent comme un hymne. L'air vous reste dans la tête. Elles sont déchaînées, c'est explosif. Elles peuvent être douces et vous lâcher une bombe pour le refrain. Je peux vous dire que les murs du 6x4 ont tremblé le 18 octobre. Et quand tu regardes leur com, pochette, clip, photo, tu as l'impression de voyager dans les années 70-80. Voici un dernier extrait où on ressent bien cette émancipation. Labrador.
Sans toi, je m'en sors bien. Tout ira mieux demain. Je ne veux pas, toujours pas, d'un labrador pour la vanille. Et je ne veux pas, deux enfants, qu'on appelle labrador et gamine.
En 2022, on les a vues à Rock en Seine et en 2023, avant notre cher Laval, elles étaient à la fête de l'UMA, rien que ça. Elles arboraient sur leur guitare le slogan cher à de nombreuses artistes féminines « More women on stage ». Plus de femmes sur scène. Et oui, elles disent bien qu'elles sont dans une bulle, car elles sont entourées de gens qui veulent faire bouger les choses, des gens en phase de déconstruction. Mais elles voient bien aussi que la parité n'est pas encore acquise dans toutes les programmations. Elles doivent faire face à chaque concert au moins à une remarque sexiste. Mais elles sont enthousiastes et positives face à toutes les initiatives prises. Donc voilà, ces filles, on n'a pas fini de les entendre. Elles ne vont pas s'arrêter là et c'est tant mieux. Je vous laisse avec le titre en entier cette fois, Jamais je ne viens. Un morceau de rock qui déchire où elles envoient du pâté comme on dit dans ma Bretagne. Bravo.
Pas l'heure de dormir, t'as quelque chose à finir. T'es vraiment le pire, de loin le pire de tout. Je me mettrai plus à genoux, pourquoi tu fais le sourd? T'es vraiment le pire, de loin le pire des coups. Le pire des coups. Le pire des coups. Le pire des coups. Jamais je ne viens, jamais je ne suis venu avec toi.
Pour cette redécouverte, parce que c'est la deuxième émission où on parle d'Otisker, hein, quand même. Ça va devenir nos chouchoutes cette année. Cette émission se termine. Il est temps pour nous de rendre l'antenne. On n'a presque pas dépassé les 1 heure d'émission. Merci à vous, les sorcières, de préparer du contenu chaque mois pour cette belle émission qui vous rassemble et nous rassemble. Merci à Anna, Cécile, Ingrid, Chloé, Caro, Margot de m'avoir accompagnée pendant cette émission. J'espère que j'ai oublié personne.
Merci
au public de Majdaillé de nous avoir écoutés, d'avoir vécu sa vie, d'avoir interagi. Voilà, merci pour vos rires, merci pour vos coups de cœur et vos coups de gueule. Je vous donne rendez-vous le mois prochain à 19h sur les ondes de l'autre radio, 101.7 à Laval et 107.9 à Château-Gontier. En attendant, récurez vos chaudrons et brossez vos balais pour envahir l'autre radio, les espaces de création et l'espace public. Sorcièrement vôtre.
Bisous,
bisous, bisous.
Dieu crée les dinosaures, Dieu détruit les dinosaures, Dieu crée l'homme, l'homme détruit Dieu, l'homme crée les dinosaures.
Les dinosaures mangent l'homme, la femme hérite de la terre.